psaume 87. Alors je lis dans la version second, hein, si vous avez d'autres versions, elles seront peut-être un peu différentes. En tout cas, c'est un psaume des fils de Corée. Ça vous dit quelque chose, Corée ? Oui. Voilà, celui qui s'est révolté contre Moïse. Et alors, c'est passé quelque chose de très, très spectaculaire, hein, puisque la terre s'est ouverte et ils sont tombés, Corée, avec je ne sais pas combien, les Israélites sont tombés dans la crevasse. Combien ? 250, voilà. Sont tombés dans la crevasse. Là, c'est spectaculaire. La révolte, la rébellion a tout de suite été sanctionnée par Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est les fils de Corée. Donc, vous voyez, parfois, on se dit, bah, tiens, il y a une malédiction générationnelle des fils sur les pères. Oui, c'est vrai qu'il y a cette malédiction qui est citée. Mais là, ça ne marche pas. Vous voyez, les fils de Corée, non seulement ils n'ont pas suivi la rébellion de leur père, mais en même temps ils ont été utilisés parce que plusieurs fils, l'un était à la louange, l'autre a été utilisé comme psalmiste, comme là les fils de Corée qui ont écrit des psaumes comme David. Vous voyez, comme quoi, on peut choisir son camp. On peut choisir d'être rebelle ou on peut choisir de ne pas l'être. Et là, les fils de Corée nous ont laissé ce psaume absolument magnifique que je vais lire avec vous, qui va, être le soutien du message que je vais apporter, qui est toujours sur qui sommes-nous en tant qu'Église, hein. Qui sommes-nous ? Et là, on parle de Sion et de la montagne de Sion. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je mentionne l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins. Tyr avec l'Éthiopie, c'est là qu'un tel est né, mais de Sion il est dit, tous y sont nés. Et c'est lui le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'un tel est né. Comme ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Amen. Voilà, je reviendrai sur ce psaume tout à l'heure, mais je vais lire un autre passage qui, lui, est complémentaire, en tout cas dans le cadre de mon message. Alors, je viens juste de perdre la référence, c'est Ésaïe 62. Ésaïe 62. Voilà, il est un peu plus long, mais c'est également un message de salut à Sion. Sion, c'est quoi Sion ? Alors c'est le mont, c'est une montagne, hein, c'est une montagne sur laquelle se trouve le temple, hein, de Jérusalem. Mais il y a d'autres collines aussi, hein, autour de Jérusalem. Mais le mont Sion, c'est là où se trouve le temple, hein, où le temple, le sanctuaire où Dieu se manifeste. Et en tout cas, c'est manifesté durant tout l'Ancien Testament et qui va se manifester au retour de Jésus. Alors voilà ce magnifique passage d'Ésaïe 62. À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je n'aurai de cesse. Que sa justice paraisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. Et on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel. Un turban royal dans la paume de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta dère désolation. Mais on t'appellera, elle est mon plaisir. Et on appellera ta terre l'épousée. Car l'Éternel trouve son plaisir en toi. Et ta terre sera épousée. Comme un jeune homme devient l'époux d'une vierge, ainsi tes fils deviendront pour toi comme des époux. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu seras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posé des gardes. Ils ne doivent jamais se taire, ni jour ni nuit. Vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel, pas de répit pour vous. Et ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et en fasse un sujet de louange sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin nouveau, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel. Et ceux qui auront vendangé boiront le vin dans les parvis de mon saint lieu. Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière au-dessus des peuples. Voici l'Éternel, il fait entendre ceci aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur, il arrive. Voici que le salaire est avec lui et que les fruits de son activité le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi, on t'appellera recherché et ville non délaissée. Ça, c'est un passage extrêmement prophétique pour parler de ce qui va venir, hein, de ce qui va arriver, aussi bien à Jérusalem terrestre qu'à la Jérusalem céleste. Et on verra tout à l'heure à quoi je fais référence en parlant de ces deux Jérusalem. Dieu a un plan. Amen. Dieu a un plan. Est-ce que nous voulons entrer dans ce plan? C'est la question. Ou est-ce que nous avons notre plan à nous? Voyez-vous, l'homme a des plans, mais Dieu a des plans aussi. Et la différence entre les chrétiens et les païens, c'est que nous croyons que Dieu a un plan et que ce plan se déroule dans l'histoire, que ce n'est pas juste un mythe, ce n'est pas juste pour nous encourager, nous faire du bien, mais c'est une véritable histoire qui se déroule, dans laquelle nous sommes. C'est vrai que notre durée, qui peut être de 100 ans, peut-être un peu plus pour certains, un peu moins pour d'autres, effectivement, ça fait partie d'un grand plan. Ceux qui nous précèdent et ceux qui nous suivent sont dans ce plan. Et nous allons vivre ces choses-là si nous sommes en Dieu. Nous verrons cette Sion qui va être établie à Jérusalem, où Jésus va régner et toutes les nations vont venir à ses pieds pour l'adorer. Nous avons des prophéties, il n'y a pas que celle-là, mais celle-là est extraordinaire et je vais l'utiliser pour nous encourager à savoir qui nous sommes. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir qui on est. Vous voyez, ceux qui ne connaissent pas leurs parents ou pour différentes raisons, toute leur vie, ils cherchent leur identité. Parce que nous venons sur cette terre au travers de quelque chose, de quelqu'un. Nous ne sommes pas comme ça. Nous croyons qu'il y a un sens, que la vie a un sens. Non, vous ne croyez pas? Eh bien, on cherche ce sens. Et ce sens, si nous ne l'avons pas, toute notre vie, on est taraudé. Ou si on ne l'est pas, c'est au moment de la mort qu'on est taraudé. Parce que s'il n'y a pas de sens, il suffit de se suicider, comme certains philosophes encouragent à le faire, s'il n'y a pas de sens. Pourquoi attendre, avec toutes les difficultés de la vie, la fin d'une vie? Non, l'homme a un sens. Dieu a donné un sens à l'humanité, Dieu a donné un sens à l'homme. Et c'est ce sens que nous devons trouver. Alors nous devons le trouver sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. Ce psaume qu'on a lu et ce passage d'Ésaïe s'adresse à une communauté. Et tout à l'heure, je vais rapidement repasser certaines diapos que je vous ai déjà montrées. C'est que la première communauté qui est la communauté de base, c'est qui? Pardon? Non, c'est pas la famille. Alors ça, c'est de la révision que je fais. Donc, vous voyez, comme quoi, il faut revenir, comme le pédagogue, sur les mêmes choses. Oui, C'est qui la première communauté? Oui, c'est la Trinité. Vous voyez, c'est la Trinité. La Trinité qui est un mystère et néanmoins une réalité. Dieu est un et trois. Alors, vous saviez qu'il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit? C'est la particularité du christianisme. Aucune religion n'a cela. Il y a des religions qui ont des triades, c'est-à-dire trois dieux, c'est vrai. Mais un dieu en trois, ça n'existe pas en dehors du christianisme. C'est une particularité qui est propre au christianisme. Pourquoi ? Parce que ce dieu que nous adorons, ce dieu auquel nous appartenons, si on est chrétien, c'est un dieu d'amour. Dieu est, encore une fois, Dieu est amour. Vous le croyez tous ? Hein ? Si vous ne le croyez pas, je vous encourage ce matin à venir au pied de ce Dieu d'amour pour que vous puissiez connaître l'amour, ressentir l'amour, vivre l'amour. Or, l'amour ne peut pas suivre tout seul. Hein, comme je l'ai dit et je l'aurais dit, mais je vois que c'est quand même bien de rappeler les choses de base. L'amour tout seul, c'est quoi ? C'est narcissique, hein, le fameux Narcisse. Bon, c'est une image qui est véhiculée depuis les philosophes de l'Antiquité, où quelqu'un se regarde dans de l'eau et il se regarde tellement que finalement il finit par se noyer, puisque il va tellement aimer son image qu'il va se pencher et se perdre dans l'eau et se noyer. C'est ce qu'on appelle le narcissisme, c'est-à-dire quand on s'aime soi-même, hein, eh bien, on va se noyer, on est malheureux parce que on est fait pour aimer quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre doit nous aimer. Donc, on doit être dans une relation d'amour. L'amour ne peut se vivre qu'en communauté, voyez-vous. D'ailleurs, Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit : je veux pas qu'il soit seul. Et donc, il lui a fait une compagne. Donc déjà, ils sont deux. Et ensuite, après, il y a les enfants. Donc trois, quatre, etc. Or, en Dieu, il y a trois personnes. Comment on appelle ça si l'amour se fait à deux ? Ah. Voilà, c'est bien. Il y en a qui sont attaqués, là. Il est dommage que tu pars en Chine. On le répète pour ceux qui sont dans le fond. L'amour à deux, c'est fusion. Fusionnel. Et c'est intéressant parce qu'on fait avec Michel beaucoup de préparations au mariage et certains couples, ils pensent que l'amour est fusionnel. Alors, on le voit dans certains domaines, ils ont le même email, le même téléphone, le même machin, etc. Enfin, bon, ça ne me dérange pas, hein. Ça me dérange pas que c'est le même. Mais je sais que derrière, ils développent une philosophie fusionnelle. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit le couple. Or, je vous signale que dans le couple, chacun garde sa personnalité. Parce que, je peux vous garantir, ça c'est une réalité, si vraiment vous voulez être fusionnel, en fait la réalité c'est que l'un va dominer l'autre. C'est ça la réalité. Fusionnalité, ça n'existe pas. Hello ? Ça n'existe pas. Ça n'existe que sur le papier, ou dans la tête, ou dans l'idée. Mais dans la réalité, il y en a un qui va forcément se soumettre à l'autre, et l'autre, ou l'un va dominer sur l'autre, enfin, peu importe. Allô ? C'est à qui, ça ? Non ? Enfin, réfléchissez, si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Donc à deux, c'est fusionnel. Il n'y a qu'à trois qu'on peut manifester l'amour don. L'amour qui se donne, voyez-vous ? Parce que les deux qui risquent d'être fusionnels, eh bien, il faut qu'ils regardent à un troisième, etc. Donc ça, c'est la base de la philosophie de l'amour, de la sagesse, hein, la sagesse de l'amour. Eh bien, Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est ça. Il manifeste le véritable amour, la base de l'amour. Dieu est amour. Il est un, c'est le fameux Shema Israël, écoute Israël. L'Éternel, ton Dieu, est un. Ça, c'est la base du Dieu d'Israël, du Dieu Yahvé, Mais il y a plus d'Élohim que d'Yahvé dans l'Ancien Testament. Or, Élohim, c'est pluriel. C'est pluriel. Et Dieu s'est toujours manifesté à trois, que ce soit Abraham, quand il y a une manifestation de Dieu, il y a toujours trois personnes. Et ça, c'est la particularité. Et les pères de l'Église ont pris soin pendant trois siècles, vous savez, un siècle, c'est 100 ans, il y a aussi d'autres exceptions du mot siècle, on le verra dans siècle à venir, siècle à présent, mais dans 300 ans, même jusqu'à 400, puisque le concile a été en 400, eh bien, ils ont travaillé cette question, parce qu'en fait, le mot Trinité n'est pas révélé sous cette manière-là dans la Bible, mais dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il y a ces manifestations du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui, dans une dynamique relationnelle entre ces trois personnes, eh bien, nous avons toute la manifestation de la puissance et de l'amour de Dieu qui se révèle à nous. Et ça, c'est le modèle de communauté, si vous voulez. Et ce modèle de communauté, Dieu veut que nous le vivions dans l'Église. C'est quoi l'Église ? Normalement, vous le faites aussi dans les groupes de maison. C'est quoi l'Église ? Toute la question. C'est quoi l'Église ? C'est vrai que quand on est sauvé, quand on est racheté, quand on fait une expérience de nouvelle naissance, j'espère que tous vous avez fait cette expérience de rencontre avec Jésus, de nouvelle naissance, eh bien, vous recevez une grâce. C'est parce que Dieu vous rencontre. Ce n'est pas vous qui le rencontrez, c'est Dieu qui vous rencontre. Parce qu'il voit votre cœur, il voit votre ouverture d'esprit, il voit votre désir de le connaître. Bien sûr, il y a un désir qui est en vous. Mais c'est Dieu qui vous rencontre. Et il vous permet d'être né, alors de nouveau, ou d'en haut, je préfère d'en haut, parce que ça montre qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de nous, qui vient nous rencontrer, et qui nous fait connaître cet amour. Quand vous êtes né de nouveau, est-ce que vous avez senti l'amour ? Levez la main. Oh. Si jamais vous ne l'avez pas senti, c'est possible. Hein. Parce qu'en nous, parfois, l'amour, on a une mauvaise expérience de l'amour. Que ce soit sur un plan individuel, sur un plan familial, sur un plan... toutes sortes de plans, on peut être blessé dans l'amour qui n'a pas été bon. Et donc parfois, notre cœur peut être dur pour ressentir l'amour. Mais sachez que si vous vous laissez remplir de sa présence, eh bien, vous ne pouvez pas échapper à sentir l'amour. D'être aimé. D'être quelqu'un qui est précieux pour quelqu'un. C'est ça, l'amour. Vous rencontrez quelqu'un et c'est le coup de foudre. Parce que d'un seul coup, vous vous sentez apprécié au plus haut point par quelqu'un, non ? Et vice-versa. C'est ça, quand on a une véritable rencontre de l'amour, c'est que... d'ailleurs, on dit que l'amour, ça aveugle. Pourquoi ça aveugle ? Pourquoi ça aveugle ? Pourquoi on dit ça ? On dit ça, et puis on ne sait pas pourquoi. Pourquoi on dit que l'amour... Amélie, tu as une idée ? Moi aussi, tu as une idée. Oui, mais non, mais tu as une idée. Je suis sûr que Jérôme a une idée, il a toujours des idées, lui. Pourquoi on dit que l'amour rend aveugle ? Voilà. Merci. Merci, Philippe. Parce qu'on embellit, forcément, on embellit qui est l'autre. Le problème, c'est parfois, on tombe de haut quand cet embellissement disparaît, parce qu'on n'a pas vu tout à fait les mêmes choses. Mais bon, c'est comme ça que l'amour se fait et que le mariage peut se produire. Hein. Parce que de toute façon, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Et c'est pour ça qu'après, une fois qu'on est marié, il faut se soutenir, il faut rester fidèle. Là, c'est là que c'est plus dur, pardon. Le mariage ? On l'a vu. Ah, il rend la vue. l'amour aveugle et l'amour et le mariage rend la vue. Oui, parce qu'on voit les choses autrement. Et c'est là que commence le vrai mariage, vous voyez. C'est-à-dire que la fidélité commence par accepter les défauts de l'autre, mais aussi les siens. Parce que si on n'accepte que les défauts de l'autre, effectivement, ça va tourner au vinaigre. Hein, okay. Non, on a tous des défauts. Mais comme on a contracté une alliance, c'est là qu'il faut sortir du mutisme et d'accuser l'autre de tout un tas de choses et dire maintenant qu'on est marié, il faut qu'on se parle. Hein, vous avez entendu parler de communication? Il y en a qui sont dans le mariage et ne communiquent pas. Alors forcément, ils pensent toujours que l'autre ceci, l'autre cela, vice-versa, etc. Bon, mais un mariage, il faut communiquer. Et c'est ça qui se passe dans le modèle de la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils communiquent. Dis à ton voisin, communique. Communiquez, voyez, vous communiquez là. Hein, on communique, ils communiquent. Il n'y a que ça dans cette Trinité, dans ces trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, on voit la communication sans arrêt de la Genèse à l'Apocalypse. Sans arrêt. Et c'est ça l'amour. Quelque chose qui se communique. Regardez le premier verset de la Genèse. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu a dit, au travers de la parole, Jésus, et la création s'est opérée, etc. C'est les trois personnes, ils communiquent, ils agissent de concert vers une direction, vers un plan. Et c'est ça que Dieu fait faire dans l'Église. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui veulent vivre leur foi tout seuls. Pas complètement tout seuls, puisqu'ils ont Internet, donc ils pensent qu'ils sont en contact avec les autres. Vous croyez que c'est ça la vraie communication ? De regarder Internet. Je n'ai rien contre Internet, hein, je l'utilise comme vous. Il y en a qui regardent des vidéos, je n'ai rien contre non plus des vidéos de culte, ils sont très bien. Mais l'Église, c'est d'être ensemble et de se supporter ensemble. Non ? De se supporter. Parce que Dieu vous supporte, Dieu me supporte. Hein ? Dieu m'aime malgré mes défauts. Et Dieu t'aime malgré tes défauts. Et dans un mariage, eh bien, on s'aime malgré les défauts. Hein, bon, si possible, c'est bien de les corriger. Hein. D'ailleurs, maintenant, on vous offre la maison d'Élie, ministère de prière, qui peut vous aider dans votre mariage à gommer certains défauts. S'il y a des mauvais fruits, on sait que la prière peut le faire parce que Élie, le ministère d'Élie, c'est de ramener le cœur des pères aux fils et des fils au père. C'est la réconciliation. C'est d'amener des choses qui ne vont pas dans la communication entre les pères et les fils, mais aussi les pères et les filles, etc. Hein, c'est le ministère de réconciliation. Et ça passe par sortir du déni. Vous avez déjà entendu parler du déni ? Hein ? C'est de ne pas reconnaître ce qui est vrai parce que ça me dérange. Donc, je fais du déni, vous voyez. C'est pas parce que je fais du déni que ça n'existe plus, mais pour moi ça n'existe plus, vous voyez. Donc c'est une sorte de voilà de position psychique, hein, puisque c'est là, une position psychique, de dire moi, ça me dérange, voilà, ça me touche pas parce que voilà, je considère que c'est ça n'existe pas. Le problème c'est que tous les autres autour voient que ça existe. Donc dans la communication, dans la relation, ça pose problème. Et c'est ça, une des grosses difficultés de l'Église. Et c'est pour ça qu'il y en a qui se replient pour vivre l'Église tout seul. Mais l'Église tout seul, c'est pas l'Église. L'Église, c'est un ensemble de personnes, au moins trois, là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. L'Église, c'est un minimum de trois. Et se réunir à trois avec des défauts, bien sûr, ça pose des problèmes. Et dans le couple, c'est la première chose que vous remarquez, une fois que hein, l'amour-passion est passé, les émotions voilà, commencent à s'émousser un petit peu, et il faut vivre au quotidien, se supporter, etc. etc. Hein. Mais il n'y a pas besoin de se marier pour le voir. Hein. Ceux qui ne sont pas mariés, ils le voient. Dans une communauté, quand il y a deux ou trois personnes, encore plus, Et quand c'est des grandes églises, hein, des méga-churches, comme on appelle ça, ben, vous savez, il n'y a plus de communication. Il y a des petits groupes qui se font dans ces méga-churches parce qu'on se regroupe par affinité, hein, que ce soit ethnique, que ce soit intellectuel, que ce soit social, enfin peu importe. Mais c'est pas ça l'Église. L'Église qui sera au ciel, vous savez comment elle sera ? Vous croyez qu'il y aura des petits groupes ? Alors, il y a un petit groupe d'Antillais, il y a un petit groupe de Français, il y a un petit groupe de Chinois. Vous croyez que c'est ça qui sera l'Église ? Non ? Qu'est-ce que vous croyez que c'est ? Pardon ? Oui, mais comment ça se passera, concrètement, un peuple ? Est-ce qu'il y aura des petits groupes ? Alors, il y en a, bon, c'est des blagues, hein. Il y en a qui disent, oui, mais il y a certaines dénominations, je ne la citerai pas, bah, ils sont dans une pièce, il ne faut pas faire de rue parce qu'ils pensent qu'ils sont tout seuls. Donc, voilà. Est-ce que vous croyez qu'il y aura des chambres comme ça, ou des dénominations, qui sont des vrais chrétiens, puis d'autres qui sont un peu moins, voilà, en tout cas, c'est ceux qui croient. Est-ce que c'est ça ? Non, mais ce sera quoi alors ? Comment ça se passera ? Essayez d'imaginer. Vous imaginez tellement de choses que là, vous êtes. Ben c'est Sion. Je viens de le lire. C'est Sion. Sion va descendre du ciel et ce sera une seule entité. Une seule entité où il n'y a pas de discrimination à l'intérieur. C'est ça la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, c'est un endroit où tout le monde va s'entendre, où tout le monde va communiquer l'un avec l'autre, avec la paix. Vous savez que Sion, ça veut dire la paix. La paix entre différentes personnes, la paix entre des gens qui pensent différemment. Hein, aujourd'hui, aux États-Unis, même la politique, ça divise, y compris dans les familles, ils ne peuvent plus en parler. Vous voyez ? Est-ce que c'est la paix, ça ? Hein ? C'est la guerre. Et partout, c'est la guerre. Dans les couples, c'est la guerre. Avec les enfants, c'est la guerre. Et de plus en plus, on va vers la guerre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de paix. C'est la paix qui permet la Sion, la Jérusalem céleste. C'est un endroit de paix. Rappelez-vous, Abraham, quand il a rencontré, quand il a fait ce sacrifice à Melchisédek, Melchisédek, c'est le prince de la paix, le prince de Jérusalem, le prince de Sion, sacrificateur, roi, et prêtre et prophète. C'est ça. Il faut imaginer Sion, on l'a lu là, mais il faut essayer de faire travailler votre imagination. Dieu a de l'imagination. Hein, il a créé les singes, les girafes. Nous, on a de l'imagination. Cette imagination nous permet de mieux vivre en Église, pour ne pas être dans le déni, pour reconnaître qu'il y a des problèmes, mais qu'on ne va pas nous résoudre les problèmes. Nous, on va se supporter les uns les autres. Allô ? Dis à ton voisin, je te supporte. Et vice-versa, vice-versa. On supporte nos défauts, on supporte, c'est ce qu'on fait. Si dans un mariage, on ne le fait pas, ça va se terminer, le mariage. D'ailleurs, aujourd'hui, voilà, les mariages sont de moins en moins prolongés. Parce que bah, tu me casses les pieds et je cherche quelqu'un d'autre. Voilà. Comme la société n'est plus celle qui inhibe, qui interdit, à l'époque vous ne pouviez pas. Ça n'empêche pas que derrière il y avait du concubinage, il y avait toutes sortes de relations. Hein, quand l'Église catholique était très omniprésente, hein, il y avait beaucoup d'hypocrisie. Hein. Mais aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus. Donc chacun fait ce qu'il veut. Puis du coup, même dans l'Église, les mariages se rompent. Parce que c'est difficile de se supporter. Parce que se supporter, ça veut dire que soit on va créer de la bile, hein, en se supportant, ou soit on va changer chacun de son côté. Alors, c'est ça. C'est pour ça qu'on aime le ministère de la Maison d'Élie ici. Parce que si on ne se supporte pas, au lieu de se raisonner en disant « je vais le supporter », ben, dire, mais venez à la maison de prière, de la maison d'Élie, on va vous aider. Vous reconnaissez les mauvais fruits et on va les transformer parce qu'on va aller à la racine pour vous aider à vous supporter mieux parce que tout ça va disparaître. Alors, c'est pas ça une bonne nouvelle? Ben voilà, c'est une bonne nouvelle. Eh bien, dans Sion, je parle de Sion, la Jérusalem céleste, ben, tout ça, ça n'existera plus. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, déjà, ça n'existe plus. Alors, c'est un scoop. Et pourquoi je dis ça ? C'est notre identité. Ça fait plusieurs dimanches que je prêche là-dessus. Donc là, c'est un petit résumé. Pourquoi, je peux dire, dans l'Église, dans l'identité de l'Église, cette réalité existe déjà. Alors, je m'exprime peut-être mal, hein. Ma question est mal formulée, j'en conviens, parce que j'essaie d'obtenir de vous une réponse qui ne vient pas, mais je suis sûr que vous la connaissez pour certains. Alors, je répète, je viens de dire que la Sion, c'est une ville de paix, où des gens sont dans la paix, les uns avec les autres. Ils sont tellement dans la paix que l'amour règne. Et que c'est cette Sion qui va descendre à la fin, puisque les deux sont réunis. La Sion céleste, pourquoi elle descend ? Parce qu'elle va rejoindre la Sion terrestre. Hello ? C'est aussi simple que ça. Les deux Sions vont être réunis en une seule. Et là, ce sera la paix, la joie, enfin tout ce qu'on imagine, dans des relations parfaites. Donc je reviens à ma question. Pourquoi on peut dire aujourd'hui, dans l'Église, cette réalité existe déjà ? Voilà une réponse mais qui n'est pas tout à fait conforme à l'enseignement que je vous ai donné. C'est pour ça. Très bien, là tu brûles, comme on dit. Hein. Voilà. C'est Isabelle qui est le plus proche de la réponse parce que... Bon, alors je vais vous montrer à nouveau le modèle. Parce que Dieu m'a permis de développer un modèle qui est simple. N'essayez pas de le compliquer. Gardez la simplicité du modèle que je vous présente. Gardez la simplicité du modèle que je vous présente. Et toutes ces questions-là seront simples. Ok ? Je vais vous représenter le modèle pour que vous puissiez voir en quoi cette réponse est simple. Rappelez-moi la question. Hein. Voilà. Alors, je vais passer très vite les premiers, puisque vous les avez déjà vus. Hein. Alors, je suis désolé, c'est jaune, hein, mais normalement, c'est blanc. Ça n'a pas marché ce matin. Voilà. Le modèle alors de Lens, hein, parce que Tom est enseigné là-dessus à Lens, il y a trois cases. Ces trois cases, c'est la fameuse Trinité, qui n'est pas seulement en Dieu, mais qui est aussi dans l'homme et qui est aussi dans l'Église. L'Église, elle est une et trois. C'est-à-dire qu'il y a une unité dans l'Église, mais il y a trois fondements de l'Église, ou trois hypostases, si vous voulez, comme on appelle ça en grec pour la Trinité, trois colonnes, trois piliers, trois tout ce que vous voulez, trois choses qui sont la base de l'Église. Pour l'Église de Lens, c'est centralité, communauté, cité. Bon, pour nous, c'est épouse, état, ecclésia. C'est pas compliqué, c'est trois E. Épouse, état, ecclésia. Si vous retenez ça, c'est tout. C'est pour ça que je dis qu'il est simple. On peut pas plus simple, on meurt. Il y a trois choses qui constituent l'Église. Être une épouse, être un état, être une ecclésia. Bon, faut rappeler un peu ce que c'est épouse, état, ecclésia. Épouse, je pense que c'est assez évident. État, ecclésia aussi. Alors, la seule chose que le modèle complique un petit peu, mais ce n'est pas de ma faute, hein, il faut s'adresser à Dieu, c'est qu'il y a deux royaumes. Il y a un royaume présent et un royaume à venir. C'est pour ça qu'il y a une Jérusalem qui est céleste et une Jérusalem terrestre. D'ailleurs, saint Augustin, enfin Augustin d'Hippone, qui est un des grands-pères de l'Église, où les réformateurs sont revenus à Augustin, même les théologiens évangéliques aujourd'hui se réfèrent à Augustin. Augustin qui a écrit pendant 13 ans à peu près la somme théologique qui fait à peu près ça de hauteur. Eh bien, il n'a pas parlé des deux royaumes, il a parlé des deux cités. Mais les deux cités, les deux royaumes, c'est la même chose. Sauf qu'il ne voulait pas utiliser mon royaume parce qu'à l'époque, le royaume romain faisait référence à l'Empire romain, où justement il y avait l'Église et l'État qui étaient un, ce qui est totalement non conforme à l'Église. L'Église ne peut pas être un avec l'État civil. C'est un autre État, un état spirituel. Et donc, le temps de l'Église, c'est entre la résurrection de Jésus et le retour de Jésus et la Sion. Là, c'est la Sion. Vous voyez, je vais représenter la Sion ici. C'est-à-dire la Jérusalem qui descend. Ça, c'est la Sion. Alors, pourquoi cette image? C'est parce que dans Apocalypse, il dessine ça comme un carré, comme un cube, de 12 par 12 par 12 par 144, 124 000, etc. Enfin, 12, parce que le 12, c'est le chiffre de la totalité des nations. Donc, voilà, ça représente un cube. Mais bon, ce cube, en fait, c'est des personnes. Hein, c'est vous et moi qui descendrons d'en haut. Donc, vous voyez, il est en haut, mais il y a aussi une Jérusalem en bas. Qui aujourd'hui, vous pouvez y aller en Israël et en Jérusalem d'en bas. Voilà. Donc ça, c'est la durée. Donc l'Église, c'est entre ça et ça. Avant, il y avait Israël. Israël a annoncé la venue de l'Église. L'Église, c'est toutes les nations. Israël, c'est une nation. C'est la nation d'Israël. Mais Dieu est venu pour tous les hommes. Car Dieu a tant aimé le monde. Voilà, c'est le monde, c'est toutes les nations. Dieu a tant aimé toutes les nations. Il a passé par Israël, mais l'objectif, c'était tout le monde. Donc, voilà, sur le modèle, simplement, ça complique un peu le modèle des trois, mais c'est pas de ma faute, je suis désolé. C'est la faute à quoi? C'est la réalité. C'est qu'il y a deux royaumes. Il y a un royaume qui est noir, siècle présent, et un royaume qui est rouge, c'est le siècle à venir, qui... Chez Augustin, quand vous lisez la théologie d'Augustin, c'est la cité terrestre et la cité céleste. C'est les deux cités. C'est son fameux somme théologique qui s'appelle les deux cités. Ou les deux royaumes, c'est la même chose. Donc on est tout à fait en phase avec la compréhension, l'interprétation des Écritures. Alors, on va revenir au modèle. Vous voyez, il est simple, modèle de Dieu. Alors, c'est un petit peu flou. Donc, ce matin, il n'est pas très bien réglé, mais... Voilà, je sais pas, c'est encore pire. Vous avez le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Là, c'est simplement les relations. Hein, relations Père à Fils, hein, vous voyez, le Père et le Fils, comme dans le Fils prodigue qui revient au Père. Ici, c'est une vision, la vision du monde. Et là, c'est la vie, parce que le Saint-Esprit, il amène la vie, il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et c'est la vie, l'action. Et là, c'est simplement la durée. La durée, les deux siècles, vous voyez. Le siècle présent et le siècle à venir. Et le problème, c'est que Jésus, lui, et Dieu est dans le siècle à venir, mais nous, on est dans les deux siècles. C'est pour ça qu'il n'y a déjà pas encore. Parce qu'il faut tenir compte des deux siècles. Et si on ne prend pas ça en compte, on ne comprend pas l'Écriture. Voilà, on le comprend de travers, on l'interprète de travers. L'interprétation réelle, c'est de prendre en compte ces deux-là. Et c'est ça qui complique un petit peu le modèle. Alors, si vous prenez l'homme, bah, l'homme, c'est un esprit, une âme et un corps. Chacun de nous, on a un esprit, une âme et un corps. Allô? C'est compliqué, ça? C'est ça, l'identité. Vous voyez, l'identité, c'est trois. Mais en fait, vous ne pouvez pas les séparer, puisque même, il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut séparer l'âme de l'esprit. Vous voyez? C'est ce que dit la parole. Donc, c'est inséparable, pourtant, c'est distinguable. On doit les distinguer. L'esprit, comme le Père, a un rôle, une fonction à jouer. Le Fils et l'âme ont un rôle en nous à jouer. Et le corps ou le Saint-Esprit, c'est pareil, un rôle à jouer. Donc nous, on peut comprendre que nous, on est une seule entité, un être, mais on a trois personnes, trois éléments en nous qui nous sont donnés par les Écritures. Les philosophes, eux, ils pensent qu'il n'y a pas d'esprit, ils pensent qu'il n'y a qu'un âme, un corps. Mais ça, c'est de la philosophie. Mais tous les Français croient qu'il n'y a qu'une âme immortelle. D'ailleurs, c'est écrit dans la Constitution. J'ai remarqué ça. La Constitution française dit qu'il y a un âme, une âme et un corps, mais pas l'esprit. Donc, vous voyez, on suit tout à fait les pensées. Donc, après, quand on lit la Bible, on dit, ben, l'esprit, c'est quoi? Ben, l'esprit, c'est la même chose que l'âme. Non, c'est pas la même chose que l'âme. Hein, ça a une fonction différente parce qu'on est trinitaire comme Dieu. Et là, eh bien, à nouveau, les deux royaumes, sauf qu'il y en a un, l'esprit il est là, et l'âme et le corps est là. C'est tout. C'est qu'en fait, on n'est pas dans le même royaume. On est séparés. Vous voyez, on ne vit pas la même chose dans l'esprit que dans l'âme et le corps. Et c'est ça la difficulté. C'est ça le déjà pas encore. C'est que nous vivons déjà quelque chose là. Hein, quand je disais tout à l'heure, quand on est né de nouveau, on vit quelque chose, une réalité qui, par grâce, nous vivons dans ce royaume-là. Il n'y a pas de mort. Vous voyez, la mort, elle est là. La mort, elle est là. Là, il n'y a pas de mort, c'est la vie éternelle. Quand on reçoit Jésus, on reçoit la vie éternelle, tout de suite. Vous ne saviez pas ? Quand vous êtes né d'en haut, vous recevez la paix éternelle. Jésus est la paix. Vous recevez Jésus, non ? C'est compliqué ce que j'explique ? C'est aussi simple que ça. Donc à partir du moment où vous savez qu'on a trois choses en nous et qu'il y a une chose qui appartient d'office au royaume à venir, donc il n'est pas entaché ni de problème, ni de quoi que ce soit, il est parfait. C'est ça. Donc nous vivons déjà un état de perfection dans notre esprit, dans la relation. Sauf que comme on ne peut pas séparer l'âme de l'esprit en nous, eh bien, parfois on reçoit de l'esprit. C'est pour ça qu'il faut du discernement. Et il faut dans l'Église aussi du discernement pour savoir si ça vient de l'esprit ou si ça vient de l'âme. Okay ? C'est ça la difficulté qui est présente, mais qui ne sera plus, puisque quand la Jérusalem céleste va venir, tout ça c'est terminé, on ne prend plus de mort. Mais ça c'est à venir. Voyez. Donc c'est le déjà, pas encore. Alors revenons-en à la communauté humaine, à l'Église. Ben, l'Église c'est un ensemble de personnes juxtaposées. Comme je disais tout à l'heure, l'Église c'est au moins trois personnes, deux ou trois personnes. C'est là que Jésus est au milieu de nous. Ça peut être 4, ça peut être 10, ça peut être 100, ça peut être 1000. D'ailleurs, dans le domaine de l'épouse, on le verra ici, dans le domaine de l'épouse, alors là je vais revenir tout à l'heure, dans le domaine de l'épouse, on sera des millions de millions, puisque ce sera un seul peuple sur l'ensemble de tous ceux qui sont nés de nouveau depuis la Pentecôte jusqu'à la fin. Dans toutes les nations. Je ne sais pas combien. Hein. Voilà. Et tout ce monde-là, qui sont d'époques différentes, etc., ils vivront dans la paix, dans la Sion finale, ils vivront dans l'amour, ils vivront dans la justice, dans toutes ces choses-là, parce qu'ils l'ont déjà obtenu au départ. Sauf que là, ce sera l'accomplissement, puisqu'il n'y aura plus l'âme et le corps qui seront voués à la mort. C'est compliqué, ça ? Non ? Oui, il y en a qui disent non. Vous m'encouragez. Donc, vous voyez, le modèle est très simple. Il y a trois choses en l'homme, corps, âme, esprit. Et dans l'Église, il y a une épouse, il y a l'État, on reviendra sur l'État, et il y a l'Ecclésia qui est une assemblée. Ça veut dire assemblée, Ecclésia. J'ai pris le E parce que Jésus a dit, et mon Ecclésia, Jésus a établi son Ecclésia, c'est-à-dire son assemblée. Mais une assemblée locale, sur la terre. Ce n'est pas une assemblée dans le ciel, c'est la Sion terrestre. Alors, pour revenir à l'État, j'aurais juste dire que dans toute communauté, et vous le savez très bien, dans toute communauté, là je prends une communauté païenne, je veux dire n'importe quelle communauté, il y a, on commence par la droite, ici, on a un social, on a un élément social, c'est-à-dire la société, ça veut dire associé, hein, des citoyens. On a des gens qui vivent soit dans une cité, soit dans une nation, soit voilà. Donc ils sont citoyens, c'est-à-dire ils participent à la vie sociale. Et il y a du politique. Le politique, c'est le bien commun. Vous voyez, ces derniers temps, nous, enfin Florence a eu des problèmes avec les voisins. Bah, s'il n'y avait pas eu de politique, eh bien, ils étaient prêts à nous taper dessus. Parce que pourquoi ? Simplement parce que le fait qu'ils construisent une maison, ça les dérange. Bon, vous voyez, ça commence. Vous faites rien de mal, simplement. Si vous dérangez, ils vous tapent dessus. Et qu'est-ce qui va régler ce problème-là ? S'il n'y avait pas de politique, ce ne serait pas possible. Ben, ils se taperaient dessus, puisque le politique peut faire venir un policier en disant arrêtez là. Hein, vous voyez, c'est ce qui s'est passé. Donc le politique, c'est celui qui doit amener le bien commun dans une société faite d'individus. Donc dans toute société, y compris l'Église, il faut du politique. C'est tout. Parce que sans, aucune communauté ne peut vivre sans du politique, sans du bien commun. Et ici, dans toute société, il y a un aspect sacré. Il y en a qui sont intéressés à notre constitution française, là, 1789, 1792. Ils sont historiens. Mais tiens, il y a une historienne, là. Vous pouvez la voir à la fin. Bah, sinon, tu réviseras. Hein. Parce que tu en sais plus que moi. Bah, il suffit de regarder Wikipédia, 1792. Et vous allez remarquer qu'ils ont fait une grande fête. Ça s'appelle la fête à l'être suprême. Alors, j'ai beaucoup cherché ce que ça veut dire, l'être suprême. Robespierre, etc. Ils étaient à Paris. Hein, et vous voyez toutes les marques de ces rassemblements, l'être suprême. Et ils ont consacré le peuple. Ils ont consacré la France à Isis, ils ont consacré la France à Athéna, ils ont consacré la France parce qu'un peuple ne peut pas vivre sans autorité spirituelle. C'est pas possible. C'est pas possible parce que nous, on est français, mais une fois qu'on meurt, il y a d'autres Français. Et avant nous, il y avait des Français qui vivent dans la même nation. Et donc, on sait bien, la pensée humaine sait très bien qu'il faut une filiation spirituelle pour donner du sens. Parce que chacun peut revivre des choses différemment. Donc, dans toute nation, dans toute ethnie, dans tout groupement, il y a une autorité spirituelle. Le seul problème, c'est quelle est cette autorité ? C'est toute la question. Donc ça, c'est la communauté humaine. Et il y a une autonomie donc, terrestre et une autonomie transcendante, ce qu'on appelle transcendant, spirituel. Hein ? Bon, là, j'ai présenté Athéna. Ce peut être d'autres divinités. Et donc il y a un État et un peuple sur le plan humain, et il y a un État et un peuple. État, ça veut dire simplement une manière d'organiser la société. C'est une manière d'organiser la société pour que le bien commun puisse être prévaloir sur le bien individuel, l'intérêt général sur l'intérêt particulier, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et quand ce politique disparaît, je sais qu'il y a un frère qui était du Congo, il m'a dit qu'à un moment donné, il n'y avait plus de gouvernement. Eh bien, ils sont retournés à des choses horribles, horribles. Des viols en pleine rue, des massacres, des exécutions, etc. Voilà, parce qu'il n'y avait plus de policiers, il n'y avait plus rien, il n'y a plus d'État. C'est impossible qu'une société ne vive sans qu'il y ait un État, une organisation. Une organisation qui amène une paix qui n'est pas naturelle, parce que dans le cœur de l'homme, il n'y a pas de paix. Je parle du monde présent. Or, donc il y a un État là, une organisation, et il y a une organisation spirituelle. Et l'ennemi, il est très bien organisé. Donc si on est sous l'autorité de l'ennemi, ben, je peux vous dire que là, on a à craindre, quoi. Et c'est ça le problème, c'est que en fait, on n'est pas assez conscient de ça. Vous voyez, en fait, derrière la souveraineté se cachent les idoles. C'est une idole, mais derrière, il y a des démons. C'est l'enseignement de Paul dans 1 Corinthiens 11. Il dit, mais les idoles, c'est rien. C'est ce qui est derrière les idoles. C'était le problème des Corinthiens. Il y en a qui disaient, oui, mais là, les idoles, etc. Il dit, mais les idoles, c'est rien. Sauf que derrière une idole, il y a le démon. Il y a des puissances spirituelles. Donc, voilà, il faut identifier les idoles dans nos cœurs. Et à chaque fois qu'on a une idole, derrière, on a des portes ouvertes aux démons. C'est pour ça aussi qu'on fait le ministère de la Maison d'Élie, parce qu'il y a beaucoup d'idoles dans nos cœurs, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Même le travail peut être une idole. Des très bonnes choses peuvent être des idoles. Un serviteur de Dieu peut être une idole. Vous voyez, on est naturellement idolâtre parce qu'on a besoin d'une autorité spirituelle. Et cette autorité spirituelle, s'il n'est pas bonne dans le bon coin, eh bien, on est soumis à des influences, on appelle ça démonisation, influence des démons. Les nations païennes, donc ça c'est une cité-État ou une État-nation, c'est le même principe. On appelle ça État-nation ou cité-État. Alors, communauté humaine élue, c'est-à-dire ceux qui sont élus par Dieu. Vous êtes élu par Dieu ? On est élu, et si on répond à cette élection, on a la nouvelle naissance. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Nicodème ne savait pas qu'il fallait naître de nouveau. Mais l'élection avec Jésus, l'élection en Israël, c'était la circoncision. L'élection chez les chrétiens, c'est quoi? Qu'est-ce qui remplace la circoncision? C'est le baptême. Mais le baptême, ce n'est pas le rite du baptême. C'est le témoignage de sa foi sur laquelle on baptise, qui est voilà, qui montre qu'on est immergé en Christ et qu'on ressort. Mais c'est le témoignage du baptême, vous voyez, qui remplace la circoncision. Donc nous sommes une communauté humaine élue. Et il y a, comme dans toute communauté, un état, un peuple, et un état, un peuple sur le plan spirituel. Et c'est pour ça qu'il y a les clés. Les clés, c'est ça. On cherche midi à 14h pour les clés que Jésus a données à Pierre. Il a dit, je te donnerai les clés du royaume de Dieu. Et comment ça va au début? Je ne m'en rappelle plus. Si tu les... Pardon? Non, c'est pas le pire, c'est les clés. Les clés et... Oui, ça aussi, mais les clés. Je m'en fais plus. Non, je... Pardon ? Je te donne les clés. Et ce que tu liras aura été délié. Aura déjà été. Vous voyez, c'est au niveau, c'est l'aoriste en grec hein, qu'il faut utiliser comme verbe. Et donc, ce que tu liras aura déjà été. Donc, il faut d'abord que ce soit lié ou délié ici pour l'utiliser. Donc, vous voyez bien que là, c'est du domaine politique, du domaine de l'État. C'est l'État qui utilise ses clés, ce n'est pas le peuple. Hein. Il a dit à Pierre, Pierre qui était le responsable en chef des apôtres. Les deux cités de Sion, donc je parlais d'Augustin d'Hippone, hein, 354-430. D'une part, on a la cité terrestre, le mont Sion, l'autonomie terrestre, parce que Dieu laisse l'autonomie. Dieu donne la liberté à l'homme, il peut choisir, il peut faire des choix sur la terre. Il laisse le choix. Et nous, en tant que chrétiens, on continue d'avoir le choix. On n'est pas obligé de croire. Et il y a la cité céleste qui est souveraine dans le ciel. Alors, est-ce qu'aujourd'hui... Alors, je vais quand même continuer, je pense. Voilà. Donc, vous voyez ici le peuple de Dieu, l'État, Israël. Là, j'aurais pu mettre, j'ai oublié de le mettre, c'est épouse, hein, épouse, État, Israël. L'Église, voilà. L'Église, c'est l'État, l'Ecclésia, le peuple, l'épousé, épouse, et Christ souverain. Alors, est-ce que maintenant, vous pouvez répondre à la question de tout à l'heure? Parce que là, vous avez la réponse. Pardon? Ah, redis-la nous. Alors la question, si je me souviens bien, c'était du style pourquoi aujourd'hui on peut déjà vivre dans l'Église, dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans toutes ces choses. Pourquoi aujourd'hui on peut déjà? Parce qu'on attend, on attend, on attend quoi? On peut déjà. Et pourquoi? Allô? Vous avez la réponse? On a lu deux passages, je les ai lus exprès pour ça. Un passage de psaume 47, c'est ça ou 48? 87, pardon. C'est dans le désordre. 87 et Ésaïe 62. Et de quoi ça parle, ça? C'est ça la réponse. C'est qu'il y a deux sillons. Quand on est né de nouveau, quand on devient chrétien, dans quel sillon on va? Exactement. C'est ça la réponse. Quand on est chrétien, né de nouveau, je parle, hein, voilà, on va dans celle-là. On va dans celle-là. Voyez-vous ? C'est pour ça que j'ai bien montré ici, vous voyez le petit trait là ? Voilà. C'est que ici, le peuple de Dieu, citoyen des cieux, et le peuple épousé, il est épousé, il a quoi derrière l'époux ? Derrière l'épouse, il y a un époux. Alors, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu, il parle de Dieu qui est notre époux, parce que Jésus est Dieu aussi, et dans le Nouveau, il parle de Christ qui est époux, qui est souverain. Donc vous voyez, ici, ça montre exactement que quand on passe de l'esprit, tout à l'heure on parlait de l'esprit, à la qualité d'épouse, on est épousé, Eh bien, on est dans la Jérusalem céleste. Non, c'est difficile à accepter ça. Alors, nous sommes déjà, pas encore, déjà dans la Sion, sauf que nous sommes en esprit. Si nous réalisons, je peux vous dire que si les chrétiens, si vous, l'Église, vous réalisez ça, vous vivrez différemment votre vie chrétienne. Allô ? Oui, parce que ça mène la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui manque le plus aujourd'hui ? C'est la crainte de Dieu. Mais, notre esprit, c'est une réalité. Sur le monde ne le reconnaît pas, il dit que c'est l'âme. Sur l'âme elle fait partie du domaine terrestre. L'âme immortelle, ça n'existe pas. C'est pas un enseignement biblique, c'est un enseignement philosophique. Mais l'esprit, oui, il est éternel. L'esprit qu'on a reçu, il est mort à cause du péché, mais en Christ, il est renouvelé, il est ressuscité, il est renouvelé, il est éveillé. Et en esprit, nous pouvons nous attacher à Christ. Et Christ, est-ce qu'il y a du péché en Christ ? Bon. Est-ce que son épouse a du péché ? Il ne pourrait pas l'épouser. Oui, on fait simplement un problème de raisonnement, on raisonne un tout petit peu, et on voit bien que c'est évident. Et en plus, c'est enseigné dans l'Écriture. Nous sommes l'épouse, dès maintenant, sauf qu'elle va être révélée à la fin. C'est le problème de la révélation. Il faut attendre le temps. Alors, c'est Dieu qui décide, même Jésus ne connaît pas le temps, puisque c'est le Père qui décide, le temps où l'épouse va être révélée. C'est-à-dire qu'elle va descendre et va rejoindre la Sion terrestre. Et la Sion terrestre, c'est là, c'est l'État, l'Ecclésia. Il y a deux États. Ici, il y a un État, une organisation politique, hein, qui est Dieu qui gère, qui est souverain, qui règne sur tout l'univers, et il gère l'aspect moral, parce qu'il va juger à la fin, etc. Et de l'autre côté, eh bien, l'État qui est sur la terre. Donc l'Église, voilà, ça se ramène tout simplement à ça, plus la durée, et c'est ça le modèle. Donc si vous retenez que l'Église est un peuple épousé, hein, qui est l'épouse. Peuple épousé, l'Église, pardon. Oui, j'ai arrêté. Si on considère que l'Église est l'épouse, l'État et l'Ecclésia, eh bien c'est tout ce qu'il faut retenir. Les trois choses sont fondamentales, elles ne sont pas séparables, mais elles existent. Et si nous, dans notre tête, on est conscient de ça, eh bien on va chercher à ce que notre âme, ou l'État de l'Église, c'est-à-dire les gouvernants, bien, ils tirent vers le haut, ils cherchent à marcher en l'esprit, et d'ailleurs le TQP, la première leçon, l'explique extrêmement bien, marcher par l'esprit et non par la chair, c'est tout simplement ça. Si on marche par la chair, eh bien on va renforcer nos défauts, on va renforcer nos problèmes. Les problèmes des églises vont augmenter, puisqu'on marche dans la chair, alors qu'on devrait marcher dans l'esprit. Parce que dans l'esprit, il y a la joie, la paix, la sérénité, l'amour, etc. Vous voyez ? C'est pour ça que l'exhortation de marcher par l'esprit, c'est l'exhortation à vivre dans le sillon céleste qui va venir sur la terre. Absolument, absolument. Relisez le Nouveau Testament dans cet angle-là. Ceux qui viendront d'ailleurs à la théologie de là de samedi, ce sera ça. Vous le comprendrez, parce que c'est l'exégèse de ce que c'est que l'Église dans le Nouveau Testament. Est-ce que ça paraît plus clair ? Parce que si j'enseigne, c'est pour que les choses soient claires. Alors on reprend pour terminer. L'Église, c'est quoi ? Vous êtes quoi ? Une épouse ? Vous êtes une épousée ? Vous êtes épousée, une épouse ? Deuxièmement, c'est un État. C'est une organisation que Jésus a mis en place, où il y a les anciens, où il y a les évêques. Enfin, après, on peut ne pas être d'accord sur différents modes d'organisation. Hein, il y a des organisations pyramidales, organisations, etc. Je ne rentre pas là-dedans, mais il y a un État pour que l'Église puisse marcher, pour que le peuple de Dieu sur la terre, donc l'Église, l'Assemblée. Et c'est pour ça qu'on a demandé à ce que vous deveniez membre, que vous, vous deveniez membre. On demande à être membre. C'est comme on demande le baptême. On n'est pas forcé d'être dans une Église où on respecte les règles. Parce que l'État définit des règles locales, définit une façon de fonctionner, sinon ça ne peut pas marcher. Et ça, il faut le respecter pour que l'Église, dans son imperfection, puisse marcher le mieux possible. C'est tout. On est dans le cadre de l'imperfection d'un côté, la perfection de l'autre. Donc on est déjà parfait et on est amené à devenir parfait. Vous voyez, on est parfait et on doit devenir parfait. Et c'est ça aussi le déjà pas encore. C'est ça la problématique, le problème. Et quand on simplifie les choses comme certains chrétiens le font, certaines églises le font, eh bien on passe à côté de cette réalité. Et on a des problèmes. Nous, dans l'église, ici, pendant 10 ans, on a eu des problèmes parce que moi, je n'avais pas compris ça. Vous voyez ? Quoi, en tant que responsable ? Si en tant que responsable, on ne comprend pas ça, bon, vous avez du mal à comprendre. Mais moi, je ne comprenais rien. Je ne voyais pas pourquoi. Il y a des anciens qui ne pouvaient pas supporter. Pourquoi il y avait des divisions dans l'église? Pourquoi, etc. Alors, au bout de 10 ans, j'ai dit, bon, je rends mon tablier. Hein. C'est pour être pasteur dans une église qui a ça. Moi, terminé. Voilà. Et le Seigneur m'a dit, non, tu reprends, mais sur la repentance. La base de la repentance. Et c'est la repentance qui permet, effectivement, de se mettre en cause, de se remettre en cause. De dire, eh bien, peut-être que je ne suis pas ce que je devrais être. Je demande pardon. Et Jésus a enseigné le pardon à ses disciples. Et combien de fois faut-il pardonner? Parce que les disciples ont posé la question. Il a dit, mais attends, tu demandes, voilà, ça fait déjà 3 fois que j'ai pardonné, combien de fois? Et Jésus dit, tout le temps, tout le temps. C'est la base de la vie d'Église au niveau de l'État et de l'Ecclésia. Par contre, au niveau de l'épousé, vous êtes épouse. Vous êtes épouse. Dis à ton voisin, tu es épouse. Tu es épousé. Oui, tu es épousé. Alors c'est vrai que on dit souvent c'est encore des fiançailles. Bon, moi je pense que c'est quand même déjà une épouse réelle parce qu'en esprit, nous sommes un avec le Seigneur. Alors, bien sûr, il y aura le banquet final qui n'a pas encore lieu. Mais en tout cas, on est épouse. En tant qu'épouse, on doit honorer notre époux. Et ça, ça mène la crainte de Dieu. Donc rien que comprendre mon identité m'amène à voir les choses différemment. Et c'est ce que je prie. J'ai prié, Seigneur, tu me donnes ce message pour que tes enfants puissent le mettre en pratique. Donc je ne veux pas que ce soit compliqué. Il y a 3 choses à retenir, 3 E. Épouse, État, Ecclésia, qui est l'Assemblée. J'aurais pu mettre A, Assemblée, si vous voulez. Assemblée. Mais les deux n'appartiennent pas au même monde. Il y en a un qui est le monde d'ici-bas, siècle présent, et l'autre est le monde, le siècle à venir. Bien Seigneur, je te prie pour que cette Église et ceux qui en font partie, même s'ils ne sont pas là, puissent comprendre la simplicité de notre identité, mais aussi la profondeur. La profondeur, même si, effectivement, nous voudrions simplifier les choses, mais Seigneur, c'est ainsi. Pour l'instant, tu n'es pas encore revenu sur terre. Et quand tu viendras, les deux sillons seront ajustés, seront confondus. Mais Seigneur, en attendant, nous te demandons de nous aider à nous supporter les uns les autres, à ce que les chrétiens puissent se soumettre aussi à l'État local que nous représentons. Et dans cette phase que nous allons vivre pour la réécriture de la vision, ce soit le cas. Qu'il y ait une soumission qui, non pas une soumission servile, mais une soumission de compréhension de ce que, Seigneur, nous devons nous être transformés de gloire en gloire pour que ton Église soit une lumière, un phare dans cette région, qui puisse montrer qu'on peut vivre l'amour au sein de l'Église sans attendre l'éternité, Seigneur, parce que l'éternité est là. Mais nous la faisons descendre dans nos vies, descendre dans nos relations, descendre dans chacune de nos familles. Père, nous te prions et je te prie pour cela dans le nom de Jésus. Amen.